Imaginez un instant. Imaginez qu'on puisse créer de nouvelles galaxies. Pas avec un télescope qui coûte des milliards, hein, et qui demande des décennies de travail. Non, non. Juste avec un ordinateur. En quelques heures. C'est la promesse assez vertigineuse de l'intelligence artificielle générative. Mais ça vient avec une question qui est tout aussi vertigineuse. Comment savoir si ces créations cosmiques sont vraiment nouvelles ou si ce sont des simples copies, des sortes d'échos magnifiquement remixés de ce que la machine a déjà vu?
C'est la question qui hante tout le domaine en ce moment, et bien au-delà de l'astrophysique d'ailleurs. Est-ce qu'on assiste à une véritable créativité qui émerge ou à l'illusion de créativité la plus sophistiquée jamais conçue?
Pour s'attaquer à ce problème, on a une seule source aujourd'hui, mais elle est particulièrement dense. C'est un article de recherche publié sur Arxiv qui s'intitule « Galaxy Imaging with Generative Models » par Jean-Géric Campagne. Et notre mission, ça va pas être seulement de s'émerveiller devant de jolies images de galaxies, on va vraiment essayer de plonger au cœur de la machine pour comprendre cette différence cruciale entre mémoriser des données et vraiment les apprendre. En gros, est-ce que l'IA est une artiste ou une imitatrice de génie?
Et il faut bien saisir les enjeux là. Les modèles génératifs, ils sont partout. On les connaît pour l'art, le texte, la musique. Mais leur application en astrophysique, c'est un tout autre niveau d'exigence. Il s'agit plus seulement d'esthétique, mais de validité scientifique. Le rêve ultime, ce serait d'utiliser ces IA comme des sortes de simulateurs d'univers miniatures. On pourrait leur demander de générer des données nouvelles, plausibles, pour tester des théories ou pour compléter des observations. Mais pour ça, il faut une confiance absolue. Il faut être sûr que le modèle ne se contente pas de nous resservir ce qu'on lui a déjà montré. C'est un vrai test de crédibilité.
D'accord. Et un test de crédibilité aussi rigoureux, j'imagine que ça demande un protocole très, très précis. Justement, comment est-ce qu'ils s'y sont pris? Quels outils ils ont mis sur le banc d'essai?
Alors, les chercheurs ont choisi une approche très maligne. Au lieu de parier sur un seul cheval, ils ont sélectionné 3 types de modèles génératifs, chacun avec une philosophie de fonctionnement très différente. D'abord, un classique, le lightweight GAN. Les GAN, ce sont les réseaux antagonistes génératifs.
Ah oui, le duo du faussaire et du policier.
C'est exactement ça. Un générateur qui essaie de créer de fausses images et un discriminateur qui, lui, essaie de les démasquer. C'est ce jeu du chat et de la souris qui les rend de plus en plus performants.
J'aime beaucoup l'image. Et les deux autres?
Le deuxième est un modèle qui s'appelle GLO. Lui, il appartient à la famille des flux de normalisation. C'est une approche beaucoup plus mathématique, presque rigoriste. Si le GAN est un artiste un peu chaotique, GLO, c'est un comptable méticuleux. Son grand avantage, et on y reviendra, c'est que toutes ses opérations sont parfaitement réversibles.
D'accord.
Et enfin, le troisième, c'est un modèle de diffusion basé sur une architecture très populaire en ce moment, le UNET. Lui, on peut le voir comme un sculpteur. Il part d'une image de pure bouillie, un chaos total, et il apprend à retirer le bruit petit à petit pour faire émerger une image cohérente.
Un peu comme un sculpteur qui dégage une forme d'un bloc de marbre, en fait.
Exactement.
Donc on a 3 approches, un combat, un calcul réversible et une sculpture à partir du chaos. Et le but, c'est pas de voir qui gagne, mais de comprendre comment il fonctionne de l'intérieur.
Il ne s'agit pas d'une compétition, mais d'une investigation. En utilisant ces 3 sondes différentes, ils espèrent avoir une vision plus complète du phénomène d'apprentissage. Et pour entraîner ces 3 modèles, ils se sont tournés vers une source de données très, très solide, le Sloan Digital Sky Survey, le SDSS. C'est une cartographie monumentale du ciel.
D'accord, mais alors là, il y a un détail dans l'article qui m'a interpellé. Ils ont utilisé des images de seulement 64 par 64 pixels et en niveau de gris. Ça paraît minuscule pour une galaxie. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse apprendre quoi que ce soit avec si peu d'infos. Pourquoi ce choix? Est-ce que ça ne biaise pas tout dès le départ?
C'est une excellente question et en fait, c'est un choix qui est délibéré et crucial. C'est le principe du laboratoire. Pour étudier un phénomène, il faut d'abord simplifier l'environnement pour contrôler les variables. S'ils avaient utilisé des images immenses du James Webb, la complexité aurait été telle qu'il aurait été impossible de distinguer l'apprentissage de la mémorisation.
Ah, je vois.
En utilisant de petites images en noir et blanc, il crée un problème pur. C'est un environnement contrôlé qui permet d'isoler le comportement fondamental des modèles. Et la clé de leur méthode, c'est qu'ils ont entraîné ces modèles sur des ensembles de données de tailles très différentes, pour voir précisément comment la quantité d'infos affecte leur comportement.
D'accord. C'est un crash test en conditions de laboratoire. Et alors, les résultats? Parce que l'article le dit bien, au premier abord, tous les modèles s'en sortent incroyablement bien. Ils produisent des images qui sont visuellement réalistes, on ne fait pas la différence.
C'est ça qui est à la fois bluffant et un peu piégeux. Visuellement, c'est un succès. L'article montre que les caractéristiques de base des galaxies, leur forme, leur taille, leur luminosité, tout est bien reproduit. Tout semble en ordre. Le faussaire est très bon, le comptable est précis et le sculpteur est talentueux.
Autrement dit, est-ce que l'IA a vraiment compris la grammaire galactique pour écrire de nouvelles phrases, ce qu'on appelle la généralisation? Ou est-ce qu'elle a juste appris par cœur des milliers de phrases pour les réarranger un peu, la mémorisation?
Cette distinction, c'est le cœur du problème. Pour un usage scientifique, la mémorisation, c'est pas seulement inutile, c'est dangereux. Un scientifique qui utilise une IA pour explorer des possibilités, il a aucun intérêt à ce qu'elle lui redonne une version à peine modifiée d'une galaxie qui existe déjà.
C'est une perte de temps.
Exactement. Ce qu'on veut, c'est la capacité à générer des exemples inédits, mais physiquement plausibles, des galaxies qui pourraient exister.
Et l'étude semble dire qu'il y a un ingrédient secret, un facteur qui fait tout basculer, qui fait passer le modèle d'un comportement de perroquet à celui d'un créateur.
Oui, et ce n'est pas si secret que ça, hein. C'est la taille du jeu de données d'entraînement. C'est le paramètre qui change absolument tout. L'étude le démontre très clairement, surtout avec le modèle de diffusion. On observe une transition nette. Quand on l'entraîne avec un petit jeu de données, le modèle tombe dans le piège classique du surapprentissage. Le chemin le plus court pour lui, pour minimiser son erreur, c'est de mémoriser par cœur les exemples. Il devient un imitateur exceptionnel, mais un créateur médiocre.
Il récite sa leçon sans l'avoir comprise, en somme.
Parfaitement. Mais quand on augmente massivement la quantité de données, la mémorisation devient une stratégie inefficace. C'est comme essayer de mémoriser un dictionnaire entier. Le modèle est forcé de trouver une autre solution. Il doit identifier des structures, des règles, des motifs plus généraux. Il n'a pas le choix, il doit compresser l'info en concept. Et c'est là qu'il passe à la généralisation.
Est-ce qu'il y a une sorte de nombre magique, un seuil à partir duquel l'étincelle se produit?
L'article avance une piste très concrète. Il semble qu'en dessous d'un certain seuil, ici autour de 100 000 images, tous les modèles testés commencent à montrer des signes de mémorisation. Ce n'est pas un chiffre magique universel, bien sûr, mais pour ce problème précis, ça indique qu'il faut une masse critique de données. C'est seulement quand il est submergé d'exemples que le modèle est contraint de passer de la simple imitation à un véritable apprentissage.
D'accord, donc on a une théorie solide. L'atelier des données, c'est la clé. Mais une théorie, il faut la prouver. Comment on fait pour vérifier ce qui se passe dans la tête de l'IA? C'est là que le choix des trois modèles prend tout son sens, j'imagine.
Exactement. Chaque modèle offre une fenêtre différente sur son fonctionnement interne. Commençons par le plus élégant. Glow, le comptable, sa propriété spéciale, c'est qu'il est bijectif.
C'est-à-dire?
La bijectivité, c'est une propriété mathématique qui garantit une traduction parfaite et réversible. Imaginez un code secret unique. Vous transformez une image en une série de chiffres, un vecteur latent. Avec Glow, vous avez la garantie absolue que vous pouvez prendre ce code et reconstituer exactement l'image de départ, au pixel près. Aucune perte d'info.
Une sorte d'archiveur zip sans aucune perte.
C'est une très bonne analogie. Et les chercheurs ont exploité ça pour créer un test d'inversion. Ils peuvent prendre une image réelle, la passer dans le modèle pour avoir son code, puis inverser. Si le modèle a bien appris, l'image finale doit être identique à l'original. C'est un outil de diagnostic d'une précision redoutable.
Très clair. Mais pour le GAN, le duo fausseur-policier, on n'a pas ce luxe. Son fonctionnement est un aller simple. Alors, comment on a pu l'auditer, lui?
Pour le GAN, ils ont dû être plus rusés. L'idée a été de se servir d'une partie du modèle pour en juger une autre. Je reprends l'analogie Coco. Ils ont décidé d'interroger le policier, le discriminateur.
Ils l'ont mis sur le grill.
En quelque sorte, oui. L'idée est de mesurer son niveau de confiance. Quand le modèle est bien entraîné sur un grand jeu de données, le générateur devient un faussaire subtil et le discriminateur devient un expert très affûté. Il est donc très confiant dans son jugement. Mais quand l'entraînement s'est fait sur peu de données, le générateur est paresseux, il copie. Du coup, le discriminateur est moins performant, moins sûr de lui. Sa confiance est faible. Et en mesurant ce niveau de confiance, on a un excellent indicateur de la qualité de l'apprentissage de tout le système. C'est comme si le modèle avouait lui-même son incertitude.
C'est fascinant d'utiliser une partie du modèle pour auditer l'autre. Alors, si on prend un peu de recul, après tous ces tests, qu'est-ce que ça signifie? Quelle est la grande conclusion?
La conclusion principale est à la fois humble et terriblement importante. Elle nous dit que générer des images qui ont l'air réelles, en fait, ce n'est plus le vrai défi. La technologie est là pour ça. La partie la plus difficile et la plus cruciale pour la science, c'est de développer des méthodes robustes pour prouver que l'IA n'est pas juste un plagiaire de génie.
Qu'elle a vraiment dépassé le stade de la mémorisation.
Tout à fait, pour atteindre une forme de compréhension.
Et cette étude, elle ne fait pas que poser le problème. Elle propose aussi un début de solution, une méthode.
Oui, c'est ce que le titre de l'article appelle le cadre à deux modèles. L'idée, ce n'est pas juste de dire « on a testé deux ou trois trucs », c'est de proposer une méthodologie d'évaluation. Pour avoir confiance dans un modèle, il faut le soumettre à une batterie de tests en utilisant des modèles aux architectures différentes, comme GLO et le GAN, le test d'inversion pour l'un, le test du discriminateur pour l'autre. C'est cette triangulation qui permet d'avoir une évaluation bien plus fiable de ce qui se passe sous le capot.
On voit donc que l'immense potentiel de ces outils s'accompagne de limites tout aussi importantes.
Absolument. D'un côté, le potentiel est immense, créer des données scientifiques valides. De l'autre, les limites sont très concrètes, ce besoin critique de jeu de données massif. Sans cette quantité, le risque de produire des résultats scientifiquement inutiles, parce que simplement recracher, est très élevé.
Et on sent bien que les leçons tirées de ces petites galaxies en 64 pixels, elles dépassent largement l'astronomie.
Oh oui, c'est peut-être le point le plus important. Cette méthodologie, cette façon de penser l'audit des IA génératives, elle est universelle. Que vous génériez des images de tumeurs pour la médecine ou que vous conceviez de nouvelles molécules, la question fondamentale reste la même. Est-ce que la machine crée ou copie? Si un modèle médical mémorise des radios au lieu d'apprendre à reconnaître des pathologies, il pourrait passer à côté d'une maladie rare. Les enjeux sont colossaux.
Pour résumer, ce qu'on a exploré aujourd'hui, c'est que l'IA peut, sans conteste, dessiner des galaxies d'un réalisme saisissant. Mais le véritable enjeu, le défi scientifique, c'est de s'assurer qu'elle a appris la grammaire visuelle d'une galaxie, les principes fondamentaux de son apparence, et pas seulement qu'elle a mémorisé un catalogue d'images, aussi vaste soit-il.
Tout à fait, et cela soulève une question presque philosophique pour l'avenir. À mesure que ces modèles deviendront plus puissants, que leurs données d'entraînement deviendront si vastes qu'elles engloberont la quasi-totalité de la connaissance humaine sur un sujet, est-ce qu'on arrivera à un point où la frontière entre la généralisation et une forme de super-mémorisation deviendra complètement floue? Quand un modèle a vu des milliards d'exemples, sa nouvelle création, est-ce que c'est vraiment une nouveauté ou juste une recombinaison extraordinairement complexe de ce qu'il a déjà vu? Où se termine l'interpolation et où commence l'invention? C'est une réflexion qui ne fait que commencer.